The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
A new year, time for new growth. Grow your education and skills with Herzing University. Our online behavioral health programs fit your schedule and time. From an 8-month diploma program in health and human services to a 36-month bachelor's in psychology. Grow your behavioral health career with us wherever you are in your education. Your future starts now at Herzing University. Visit us online at herzing.edu or text health to 85109. Online at herzing.edu or text health to 85109.
Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois
préféré.
Yes. On est de retour de vacances.
Yay!
Je suis Hélène.
Et moi, c'est Mélanie.
Et comme d'hab, on est là pour vous raconter des histoires de meurtres.
Ouais, et on n'est toujours pas des professionnels après nos vacances. On n'est pas revenus expertes du crime. Ouais. On dirait que j'ai oublié c'est quoi que je dis d'habitude.
Mon cerveau est encore en vacances. On n'est pas journaliste, on n'est pas avocate.
Non, il y a bien des affaires qu'on n'est pas.
Ouais. Mais on est des fans de True Crime.
Oui!
Yes!
Et là, cette semaine, on a un potin.
Ah oui, c'est ça. Pendant nos vacances, on a une auditrice qui nous écrit un crime de potin.
C'est un vraiment solide, celle-là.
Ouais, vraiment. Fait que dans le fond, OK, je vais essayer de le dire correctement. Elle nous a dit que sa famille connaissait bien la famille des Leclerc. Ouais. On parle de Marie-Andrée Leclerc, là, de l'épisode du serpent. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. C'est vraiment bon.
Il est solide.
Ouais. Dans le fond, c'est ça. Sa famille connaissait bien les Leclerc et apparemment qu'un cousin de Marie-Andrée Leclerc, il serait également parti vers la Thaïlande pour vendre des diamants. Mais c'est pas clair si c'était exactement comme en même temps que Marie-Andrée ou après. Ça, je suis pas certaine. Au pire, l'auditrice, tu nous le diras.
Mais le potin ne se termine pas là.
Mais c'est ça, le potin ne se termine pas là. C'est que ce cousin est mort là-bas.
Aussi. Puis on sait pas comment, on sait pas pourquoi.
Ouais. C'est mystérieux. Est-ce qu'il s'est fait prendre dans le piège du serpent, puis il est décédé? Ou ça a pas rapport, puis il s'est fait tuer juste parce qu'il vendait des diamants, puis...
On sait pas.
C'est
quand même une tragédie pour la famille.
Là. Ouais, vraiment, la famille de Leclerc. Ouais.
Nos condoléances. Ouais. C'est fou comme potin, pareil.
Ouais. C'est un bon patin.
Merci beaucoup. On n'aime pas leur nom par respect et confidentialité, bien sûr.
Mm. Ouais.
Mais bon, c'est un très bon patin, moi, je trouve.
Alors, c'est toi qui racontes, Mel?
Oui. Et là, une petite histoire cette semaine qu'on a appelée...
C'était quoi ma super traduction?
C'était quoi?
C'était « Terreur à Brentwood ». Genre, si c'était un tueur si proche, c'est ça, ce serait ça le nom de l'épisode.
Terreur à Brentwood.
Ouais.
Parce que l'autre titre, il était en anglais et je le trouvais pas top. Fait que là, Hélène, elle nous a fait une super traduction avec ses skills de traductrice. Et voilà, on est rendu avec Terreur à Brentwood.
Mais j'ai hâte de l'entendre, je la connais pas du tout.
Écoute, une petite histoire de meurtre. Tout ce qu'il y a de classique. Je suis allée relax pour un petit retour de vacances.
OK, OK.
Voilà. Surtout que j'ai fini de l'écrire il y a très exactement 3 minutes. Tout va bien. Mais écoute, elle est très fraîche dans mon cerveau.
C'est parfait.
Alors, Terreur à Brentwood. J'aime vraiment le titre. Donc, on est en 2014. On est à Calgary.
Ah, je me demandais c'était dans quel coin. Moi, c'est ça.
Ben, en fait, on est à Brentwood, on s'entend. Mais Brentwood, c'est un petit village qui est pas loin de l'Université de Calgary.
OK.
Donc, en Alberta, pour nos petits Canadiens qui sont pas bons en géographie. donc, c'est ça. On est près de l'Université de Calgary, qui, fun fact, qui est quand même important dans l'histoire, a un très, très gros événement à chaque année qui s'appelle The Bermuda Party,
okay.
qui est un party où tout le monde est en short. C'est genre, l'Université de Calgary, c'est genre leur gros événement de l'année, là.
OK, tout le monde se met en short, boit de la
tout
bière.
Tout le monde est en short, exactement. Fait que c'est la grosse
J'aime
fiesta.
J'aime ça.
Fait que c'est ça. Fait que moi, je l'ai traduit en la fête du Bermuda. Voilà.
Très bonne traduction.
fait que c'est ça. Cette année-là, en 2014, ça tombait le 14 avril. Donc, c'est cette journée-là que notre histoire se passe.
OK.
On a un petit band à Calgary qui s'appelle Zachariah. Mon gros accent. Zachariah and the Prophets.
OK. Zachariah et les Prophets.
Ouais. C'est un groupe funk, soul, rock et jazz.
Nice. Ils n'ont pas fait de choix.
Écoute,
tout.
Et voilà. C'est quatre jeunes dans la vingtaine qui viennent de Calgary puis qui se sont fait un band. Mais le band a quand même beaucoup de succès à Calgary.
OK.
Genre, ils viennent de sortir leur premier EP. Qui c'est leur premier single.
Ah, OK.
Qui s'appelle Goodnight Icarus.
OK.
Fouille-moi pourquoi j'ai pas fait de recherche là-dessus. Sorry.
t'en as pas écouté?
Non. Écoute. Puis, c'est ça. Donc là, on a Zach, qui est le leader du groupe. Mon franglais. Zach, le leader du groupe, qui a ce band-là avec trois autres de ses amis, dont Josh, le batteur, et etc. Donc, Zach, Josh et leurs amis, eux autres, le soir du 14 avril 2014, sont bien excités parce qu'ils fêtent leur nouveau EP, leur nouveau single.
Mm-hmm.
Fait que là, sont à la fête du Bermuda. Puis là, ils se rendent dans une maison sur la rue Butler Crescent, pour ceux qui connaissent Calgary. Okay. Brentwood, pardon. Mm-hmm. Juste autant Calgary. Et là, c'est une maison où il y a cinq colocataires qui habitent là. Fait qu'eux, ils ont organisé le même soir un party parce qu'ils habitent à côté de l'université, dans le fond. Et là, Brandon, qui est un des colocs, lui, il avait invité son ami d'enfance, Matthew, qui travaillait à l'épicerie pas loin de là, mais lui, il travaillait jusqu'à 11h ce soir-là, fait qu'il se pointait un peu plus tard. Et là, Matthew, c'est la personne importante dans l'histoire,
okay.
pour ne pas dire...
Le J'ai rien suspect dit. Principal.
Fait que Matthew, lui, il appelle... Il était censé finir à 11h. Mais okay. là, ce qui est weird, c'est qu'il appelle Brandon à 9h parce qu'il avait décidé de quitter le travail.
OK.
Puis comme, OK, man, je m'en viens, je prends le train, je m'en viens. Fait que là, il demande à Brandon, tu peux-tu me rejoindre à la station-service du coin? Parce que je me rappelle plus la maison est où.
OK.
Puis Brandon, il trouve ça un peu whack parce qu'il est venu des millions de fois à cette maison-là puis il sait très bien où. Mais bon.
OK.
Il marche quand même. Puis il se rend à la station-service du coin. Fait que là, quand Matthew, il va à la service, puis là, il se rend... Voyons. Fait que là, Brandon et Matthew, ils se rencontrent à la station-service.
Ouais.
Et là, casually, Matthew, il donne à Brandon de l'ail, genre une gousse d'ail, puis un couteau à lame dentelée. Sans lui donner vraiment d'explication.
OK.
Il est okay. comme, hey, yo, bro, voici mm-hmm. une gousse d'ail. Voilà. Fait que là... Il remarque, là, Brandon, il pose pas trop de questions, mais il remarque que Matthew, il est un peu bizarre, puis il était comme agité.
Okay.
Aussi, Matthew, il parlait de trucs de sans se cacher dans les paroles de chansons, puis il chialait contre le président Obama, qui était président à l'époque. Donc là, ça reste le même. Fait que là, il arrive à la fête. La fête, elle battait son plein. Il y avait à peu près 25-35 personnes qui étaient à la fête. Fait que là, ça s'était attendu dans toute la maison, dans le jardin. Gros party, en short.
Ah oui, en short.
Oui, parce que c'était quand même la thématique. Fait que là, tout le monde est heureux, tout le monde est détendu, on profite de l'atmosphère. Les Brandon et ses collègues sont bien heureux. Et là, pendant toute la partie, Matthew, il se comporte un peu bizarrement. Genre, il voulait pas enlever son manteau, complètement fermé, genre un manteau chaud, même okay. quand il était à l'intérieur. Des trucs de même. Fait que là, plus tard, Matthew, il va se promener avec son ami Daniel. Fait que là, Daniel, lui aussi, il remarque que Matthew, il était un peu différent. De ce qu'il était habituellement.
Mm-hmm.
Puis il parlait de trucs bizarres, genre, il parlait des théories de conspiration. Il disait que c'était à minuit, c'était la fin du monde, ce soir-là.
Ouais, ça sent la petite psychose.
Écoute, il parlait de l'éclipse solaire, puis il parlait d'une lune rouge sang.
Mm-hmm. OK.
Donc, Daniel était un peu inquiet. Fait qu'il il envoie un texto à Brandon, puis il dit « Je pense que Matthew est dans une mauvaise passe, juste pour l'avertir.
Mm-hmm. »
Fait que là, il retourne à la maison parce qu'il marchait dehors. Puis là, Matthew, il va parler à Brandon, puis il disait « Je pense que mes parents, ils pensent que je suis devenu fou. » Là, Brandon, il commence à se poser un peu des questions. Puis là, après qu'il ait dit ça à Brandon, Matthew, il enfile des paires de gants, une paire de gants en latex bleu.
OK.
Qui est un peu bizarre. Puis il dit qu'il prenait... Puis il a dit carrément, « Je prends des précautions au cas où je devrais tuer quelqu'un quand ça va être la fin du monde. » Parce qu'on se rappelle, la fin du monde est à minuit.
OK.
Fait que là,
commence à être inquiétant.
Ouais, c'est ça. Fait que là, Brandon est comme, OK, il prend ça chill, mais il est comme... Fait que si les gens te posent des questions sur tes gants, tu vas dire quoi? Puis il dit, je vais juste les mettre mes mains dans mes poches. Fait que là, ça reste dans... Fait que là, la fête s'est poursuivie. Mathieu continue à être whack. Puis là, vers minuit,
parce que la fin du monde
approche, Mathieu jette son téléphone dans le foyer du jardin, mais avant, il l'avait fracassé avec une hache. Fracasse avec une hache son sel, jette dans le foyer. Voilà.
Hmm.
Puis il se tape quelques gousses d'ail.
Ah, cru de même.
Ouais, juste de même.
Écoute, c'est bon pour la santé.
Parce qu'il devait en avoir une coupe, écoute. Parce qu'il en avait déjà donné à son ami Brandon.
Oui.
Fait que là, le monde commence à se poser des questions, ses amis, parce que le gars, Matthew, il buvait pas d'alcool, puis il prenait pas de drogue ce soir-là.
Il était juste
vraiment...
bien buzzé sur l'air.
Il l'avait pas vu boire quoi que ce soit, prendre quoi que ce soit. Il semblait vraiment lucide. Fait que, en tout cas, c'était weird. Et vers minuit et demi, il envoie une série de textos à sa mère, du genre.
Mais là, attends, il a tué son téléphone.
Ah, c'est vrai.
Peut-être qu'il a envoyé les textos avant de
ouais, détruire son téléphone. Ouais, c'est sûrement avant. Ah, c'est vrai, ça marche pas. Dans
ouais.
OK, attends, je vais recommencer sans dire vers minuit et demi.
OK. Dans la soirée.
avant de fracasser son téléphone... Il avait envoyé une série de textos à sa mère, du genre « Je suis pas paranoïaque, je t'aime, crois-moi, c'est la réincarnation cette fois-ci.
»
Parce que...
Tout pour être rassurant.
Je t'expliquerai plus tard, mais il y a eu des petits épisodes avant.
OK.
Fait que bref, sa mère, elle s'inquiète, elle répond « Qu'est-ce qui se passe, Matthew? » Fait que là, elle dit « Je vais bien, maman, je te promets que je ne mourrai jamais et que personne ne mourra. »
OK.
Tu sais, des textos casual entre
mère et fils. Que tu reçois, genre, en
puis,
fin de soirée.
Il a aussi dit que ça était possédé par la lune. Il a dit ça à sa mère. T'es possédé par la lune.
Hey, funky. Possédé par la lune. J'avais jamais pensé à ça.
A thing. Fait que là, ses parents, ils s'inquiètent. Fait que son père, il part à sa recherche.
OK.
Fait que là, un peu avant 1h du matin, quand la fête, elle commence à se terminer un peu, les gens, ils commencent à partir. Brandon, il part avec 3 potes. Ils s'en vont au McDo. Classique. Fait que là, il reste à peu près 7 personnes dans la maison. Donc, dans le salon, t'as notre ami Lawrence, 27 ans, qui dort sur le divan. Parce qu'il était fatigué. Il avait peut-être trop bu. Fait que là, assis en face de ce divan-là, où ce que Lawrence était, il y avait Jordan, qui était un des colocs. Et il était avec le batteur du groupe, Zachariah and the Prophets, Josh, et leur amie Katie. Fait que pendant qu'ils discutent sur le divan, Lawrence dort, Zach est dans la cuisine avec Matthew, puis il est en train d'avoir une conversation profonde, tu sais, le genre de conversation que t'as un peu pacté à 1h du matin. Donc, il parlait de bouddhisme. Classique. Et là, tout en animant la discussion, soudainement et sans avertissement, Matthew prend un grand couteau de chef, puis il poignarde Zach. Cette fois. Genre, random, non. Il parle de bouddhisme, bang. Voilà. Fait que là, il court ensuite dans le salon. Là, il vire fou. Là, il court dans le salon. Il s'en va voir Josh, poignarde 6 fois. Jordan, 1 fois. Fait que là, Katie, elle a capote. Ouais. Fait qu'elle s'en va. Lawrence dort toujours.
OK, c'est ça qu'il dort, là.
Katie, elle court vers la salle à manger. Matthew la poursuit. Il réussit à la poignarder 4 fois. Fait que là, Matthew retourne ensuite sur le divan où Lawrence était, puis il poignarde 4 fois.
Pendant qu'il dormait. Il a rien vu.
Ouais, il s'est jamais réveillé. Mais tu sais, il devait être pacté, fait.
Ouais, ouais.
Tu dors dur. Fait que là, Josh, blessé, il avait 6 coups de couteau dans le corps. Il sort en boitant par la porte d'entrée pour aller chercher de l'aide. Puis là, au même moment, Brandon et ses 3 potes, ils revenaient du McDo. Fait que là, il voit Josh.
Couvert de sang.
C'est ça. Il voit Josh s'effondrer sur la pelouse, couvert de sang. Il comprend rien. Il voit Matthew passer avec un couteau dans les mains. Puis Matthew, il courait dans la rue. Fait que Brendan, il est parti à la course après Matthew. Lui, il savait pas qu'est-ce qui s'était passé.
Ouais.
Fait que là, il y a des gens au party qui ont appelé le 911.
Mm-hmm.
Fait que là, les autres vont voir Josh. Puis là, ils disent que Matthew a un grand couteau. Puis en tout cas, il est en bas de la rue. Brendan, il rattrape. Puis il réussit à le maîtriser, at some point. Puis il réussit à convaincre Matthew de lâcher le couteau. Puis Matthew, il répond que c'est la nuit des longs couteaux. Puis il dit à Brendan qu'ils sont des frères de sang. Puis après ça, il s'enfuit à la course.
OK.
C'est la dernière chose qu'il dit. Fait que là, la police, les ambulanciers arrivent à la maison, moins de 4 minutes après l'appel. Puis là, il examine toutes les victimes. Il voit Josh sur le gars qui était sur la pelouse. Mm-hmm. Et il est encore en vie, mais à peine. Katie aussi. Il trouve Zach et Jordan allongés un à côté de l'autre dans le salon. Eux autres, ils étaient déjà décédés.
Mm.
Puis sur le canapé, il y a un ami qui tente d'exercer une pression sur les blessures de Lawrence, mais il était trop tard. Il était déjà décédé. Fait que là, Katie et Josh sont transportés en ambulance à l'hôpital. Ils s'accrochaient à leur vie, mais ils ont tous les deux succombé à leurs blessures un peu de temps après leur arrivée. Fait que en tout, cette attaque-là allait laisser 5 jeunes morts de couteau.
Avec Zachary, Josh, Katie, lui qui dormait, Lawrence, puis je sais plus qui d'autre.
Ouais, Katie, Josh, Lawrence, Zach et Jordan.
Ah oui.
Les 5.
Aïe, aïe.
Fait que là, des policiers tactiques descendent dans le quartier à la recherche de Matthew. Puis là, ils tombent sur Doug. Doug, c'est le père de Matthew qui est en train de le chercher.
Ouais.
Là, la police, elle explique à Doug que son fils était suspecté de meurtre. Fait que là, une demi-heure, son père a de la misère à le croire, mais il trouvait un peu whack son enfant, fait que...
Ouais.
Une demi-heure après les attaques, la police a retrouvé Matthew. Il a été repéré en train de sauter une benne ordure, puis il a été coincé par un agent à quelques rues de la maison. Il y a un des officiers chargés de l'arrestation, Sean McGillivray. Il a été choqué de voir que Matthew, qui était quand même de petite taille, il s'était battu contre des officiers plus grands et plus forts que lui et contre un berger allemand.
Hein?
Ouais.
C'est comme la...
Genre, il essayait de le maintenir au sol, mais Matthew, puis le chien était là aussi, fait que Matthew lui a donné un coup de poing au chien. Hein? Puis le chien l'a mordu comme légitime défense. Mm-hmm. Mais Matthew, apparemment, à ce moment-là, il semblait pas ressentir de douleur, puis il a continué à se battre, puis il arrêtait pas de dire... Je l'ai pas fait, je veux parler à mon avocat. Je l'ai pas fait, je veux parler à mon avocat.
Mais il était comme, ouais, peut-être vu qu'il était en psychose, il ressentait comme moins la douleur ou genre.
Ben, c'est ça.
Ce qui se passait vraiment, ouais.
Exactement, il était comme pas là. Mm. Fait que, c'est ça. Après ça, t'sais, les agents ont remarqué que Matthew, il semblait pas avoir peur du tout, puis il avait le regard complètement vide. Fait qu'il était vraiment pas là. Il y a un agent qui l'a fouillé, puis il a trouvé dans sa chaussette des gousses d'ail. Il avait fait une petite,
pour moi,
une petite provision.
Il y avait, c'était comme une apocalypse de vampires, genre, qu'il y avait une fin du monde de
exactement.
Vampires.
T'es bonne. Parce que quand on lui a demandé à quoi ça servait, Matthew a dit « c'est pour les vampires ».
Ah, OK.
Carrément.
Mais c'est logique.
Mmh. Ouais, oui, oui. Mmh. Fait que Matthew a été emmené à l'hôpital pour des blessures mineures qu'il avait subies en luttant contre son arrestation. Fait que là, il s'en va à l'hôpital. Pendant le trajet en ambulance, puis après son arrivée à l'hôpital, il a continué à faire des déclarations vraiment bizarres. Et il disait qu'il était le fils de Dieu. Il disait que Satan, c'était le vrai Dieu. Donc, il était le fils de Satan. Il parlait beaucoup de la lune et d'Hitler puis de les théories du complot. Genre, il parlait de beaucoup de choses.
Beaucoup de choses, hein.
Quand même, ouais. Il a raconté aussi dans l'ambulance que ses amis étaient des vampires, des loups-garous et des méduses.
Oh.
Ouais. D'où le mangeage de gousses d'ail.
Ouais.
Pour se protéger.
Pour se protéger, ouais.
Il parlait aussi de tueurs en série. Il a mentionné Charles Manson puis Ted Bundy.
OK.
Genre, il parle d'un bunch de trucs.
Ouais, tout dans un melting pot de tout.
Exactement. Donc, Matthew a ensuite été inculpé, obviously, de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré.
Mm-hmm.
Voilà. 2 jours après les meurtres, les parents de Matthew, Doug et Suzanne, ils se sont exprimés publiquement pour la première fois. Doug, il a lu une déclaration disant qu'il était choqué et dévasté et qu'ils essayaient de donner un sens à ce qui s'était passé. Les autres, ils comprenaient rien.
Oui.
Et ils disaient que Matthew, c'était un enfant formidable, plein d'amour, gentillesse, respect pour les autres, blablabla. Puis, ils disaient qu'un jour, ils espéraient avoir des réponses. Puis, après ça, ils parlaient des victimes. Et je cite, il dit, Nous sommes profondément attristés par... Nous sommes profondément attristés par ce que les familles et les amis des victimes traversent. Vos vies ont été bouleversées. Nous savons que les mots ne peuvent commencer à soulager votre douleur et votre souffrance. Veuillez accepter nos plus sincères condoléances et sachez que vous étiez dans nos cœurs, nos pensées et nos prières.
Mm.
C'est fait.
Oui.
Donc là, après les attaques, pendant que la police a commencé à rassembler les déclarations des témoins et toutes les preuves et tout, Mathieu était détenu au centre de psychiatrie légale du sud de l'Alberta où il était placé sous surveillance en cas de suicide.
Ouais.
Donc, il est quand même bien surveillé. Mais il était quand même, tu sais, il restait un peu bizarre. Mathieu, il avait des délires paranoïaques. Il pensait que le personnel essayait de le tuer. Il se promenait tout nu, puis il parlait d'Adam et d'Ève. Puis il disait des choses absurdes sur lui-même. Puis il faisait toujours des gestes bizarres avec ses mains, apparemment. Mm. Je sais pas quel geste, mais bon. De toute façon, vous pourriez pas les voir. après ça, le 21-2014, là, les funérailles des 5 jeunes ont commencé. Après les funérailles, Mathieu a comparu devant le tribunal. Il a été ordonné de subir une évaluation de 30 jours afin de déterminer s'il était mentalement apte à être jugé. Mm-hmm. Il a été jugé apte à,
ah ouais.
à être jugé. Ouais. Il a été jugé apte à être jugé, ma phrase. pour cette évaluation-là, il a été transféré à l'hôpital d'Edmonton. Donc, son avocat, Alan Fay, il a déclaré aux médias que Mathieu prenait progressivement conscience de la gravité de la situation. Ouais.
Fait qu'il sortait peu à peu de sa psychose, genre, et qu'on commençait à réaliser ce qui s'était passé, ouais. Puis que c'était pas des vampires et puis des méduses.
Et des loups-garous.
Oui, des loups-garous.
Donc, là, on est rendu au 30 avril. Tout ça, ça s'est passé le 14 avril, mm-hmm. on se rappelle. La soirée de la fête des shorts.
Oui, la fête des shorts.
L'Université de Calgary a organisé un memorial public pour les 5 victimes, puis il y a eu des bourses d'études et des fonds qui ont été établis en l'honneur de chaque individu qui est décédé. Entre-temps, Mathieu a été examiné par plusieurs médecins, dont le docteur Alberto Choi, qui est important dans l'histoire.
Okay.
C'est un psychiatre légiste. Donc, le docteur Choi a évalué la vie de Mathieu jusqu'à l'attaque, puis il a constaté qu'il n'y avait pas eu de comportement psychotique avant.
OK.
Donc là, je te raconte un peu la vie de Mathieu.
Ouais. Ouais.
D'où c'est qu'il vient, le petit Mathieu? Mathieu de Groud. Il est né en 92 dans une famille qu'on qualifierait de bien ordinaire. Sa mère, Susan, c'est une comptable. Son père, Doug, c'était un vétéran de la police de Calgary. Il y avait une sœur de 1 an de plus que lui, mais on ne connaît pas son nom parce qu'elle n'a pas été divulguée dans la presse. Mathieu a une enfance normale. Il réussissait bien à l'école, il ne manquait pas d'amis. Par contre, au secondaire, il a commencé à consommer de la cocaïne puis l'ecstasy. Et à ce moment-là, plusieurs amis se sont inquiétés. Ils ont prévenu ses parents.
Okay.
Ses parents, ils ont quand même agi rapidement. Ils l'ont placé dans un programme de traitement qui a duré 1 an.
OK, quand même.
Ouais. Fait que c'est vrai que sa consommation de drogue allait cesser. Mm. Mais ses parents, ils ont toujours continué à le surveiller. Genre, ils regardent ses comptes bancaires pour voir qu'est-ce qu'il fait avec son argent et tout. Mais tout semblait être rentré dans l'ordre à ce moment-là.
Mm.
L'année suivante, après son année en traitement, Mathieu a obtenu un diplôme à l'école secondaire catholique Saint Francis et il est ensuite entré à l'université parce qu'on se rappelle que les autres n'y ont pas de cégep.
Oui, c'est vrai.
Au début, quand je l'ai lu, il me semble qu'il manquait.
Il manquait cégep.
fait qu'il est entré à l'université de Calgary où il a obtenu une licence avec une spécialisation en psychologie et une mineure en droit et société. C'est quand même pas un 2 de quotient.
Non, c'est vrai.
Dans les mois qui ont précédé les attentats, les attaques en avril, il travaillait à temps plein dans une épicerie, le Safeway, au rayon des fruits et légumes, en vue de commencer ses études de droit à l'automne.
OK.
Tu sais, il avait quand même un beau petit...
une belle vie devant lui, là. Ouais.
Ouais, c'est ça. Qui a vraiment chié. je mange pas mes mots. il était vraiment enthousiaste, mais aussi un peu stressé à l'idée d'entrer dans un nouveau programme, blablabla. Il vivait encore chez ses parents, puis il disait que sa vie familiale n'était pas stressante du tout. Et que, on est toujours quelques mois avant tout ça se produise, ses parents y avaient remarqué, ainsi que sa sœur, que la personnalité de Mathieu avait commencé à changer un peu.
OK.
Ses amis sur Facebook, ils ont remarqué que... Mon Dieu, son profil Facebook. Il a commencé à poster des choses concernant des paroles de chansons de heavy metal. Genre, des citations de la Bible, des théories de conspiration, puis des pensées erratiques et absurdes. Il publiait aussi jusqu'à 20 fois par jour.
OK, ouais.
Par jour. Genre, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Fait, puis après ça, le Dr. Troy, tu sais, quand il l'évaluait, dans une des conversations qu'il y a eu avec lui pendant l'évaluation psychiatrique, Mathieu, il a dit que dans les semaines précédant les meurtres, il a commencé à croire qu'il était le fils de Dieu et le fils de d'autres diables. Au pluriel, parce qu'il pensait qu'il y en avait plusieurs.
OK.
Puis il a commencé à lire beaucoup sur les Illuminati, les loups-garous puis les vampires. Il y avait des délires paranoïaques dans lesquels il y avait une conspiration et une guerre inévitable. Puis il croyait que le monde allait se terminer le 14 avril à cause de ce qu'il appelait la lune de sang. Dès le 14 avril. C'est drôle que ça tombait le même soir que le fameux party des fous. Fait que là, quelques jours avant le 14 avril, les parents de Mathieu ont remarqué qu'il passait beaucoup de temps tout seul dans sa chambre. Fait qu'ils ont demandé s'il se droguait à nouveau. Mathieu était là, non, je me drogue pas, tout va bien. Mais son comportement était quand même inquiétant. Fait que son père, il a pensé le faire interner, genre le renvoyer en traitement. Mais le problème, c'est que Mathieu, quand tu le connais pas, il a vraiment l'air d'un gars lucide puis bien normal. Fait que son père était comme, il savait pas trop. Fait que finalement, il a rien fait.
Il présentait pas de danger non, c'est immédiat.
Ça. Là, c'est ce ça, il avait juste l'air d'un gars bien normal. Puis aussi, à ce moment-là, il y avait les collègues de Mathieu à l'épicerie qui avaient commencé à remarquer un comportement étrange. Puis il a commencé soudainement, vraiment, quelques jours avant, à agir de manière paranoïaque. Il y a deux de ses collègues qui recevaient des messages textes un peu étranges, puis ils accusaient de conspirer contre lui, puis de l'exclure délibérément de certaines choses.
Ouais, paranoïaque.
Ce qui n'était pas vrai. Donc là, c'est ça, ce fameux soir-là, le 14 avril, c'était un lundi, Mathieu, son chiffre à l'épicerie, c'était 2h30 à 11h. 14h30 à 23h. Et c'est ça, ce jour-là, bien sûr, il a reçu un texto de son ami Brandon pour l'inviter à la fête. Et ce jour-là, la superviseure Andrea, à l'épicerie, elle avait déjà remarqué que Mathieu était un peu bizarre. Puis, il avait remarqué aussi que pendant son quart de travail, il arrêtait pas de publier des trucs wax sur Facebook. Je n'arrêtais pas, pendant son chiffre. Puis, aussi, il envoyait des textos à sa mère. C'est là que les textos à sa mère ont commencé. Et il envoyait des déclarations sur Frankenstein, sur l'astrologie chinoise et sur le livre des révélations. Genre, il y en a beaucoup de choses dans sa tête.
Vraiment, là.
Il demandait s'il était un descendant d'Hitler ou de Ponce Pilate. Ponce Pilate, j'ai dû googler, je savais pas c'était qui. Pour ceux qui savent pas, tu sais qui?
C'est genre, c'était-tu un Romain, genre?
C'est un personnage de la Bible, c'est lui qui a ordonné la crucification de Jésus.
Ah, c'était un Romain, mais ouais, à l'époque de... Ouais, OK.
Parce que c'est tout ce que je sais sur Ponce Pilate.
Ponce Pilate.
Mais c'est celui, il pensait que c'était un descendant de ce gars-là.
Ça, c'était pas reposant dans sa tête, là.
Non, non, ça avait tout aucun sens. Fait qu'autour de 8 heures, il était encore à son chiffre à l'épicerie, mais Mathieu... Il a quitté l'épicerie à 8h30. Fait qu'à 8h, en préparant la fin du monde, il a été vu en train d'acheter un paquet d'ail.
Un paquet d'ail, évidemment.
Et une demi-heure plus tard, il avait acheté une bouteille de vitamine à l'ail, puis il a retiré 500$ cash. Fait que la fin du monde, c'est de l'ail puis de l'argent.
Ouais.
Voilà. Tu sais, qu'est-ce que tu fais à la fin du monde avec 500$ cash?
Je sais pas, hein.
Genre, s'il y a bien quelque chose.
Tu payes ton entrée au paradis?
Ou au. Alors, c'est quoi le contraire de paradis? L'enfer. C'est quoi en dessous?
C'est quoi en dessous?
Fait que là... Ah oui, un peu plus tard, lors d'une conversation avec le Dr. Choi, son évaluateur, Mathieu, il expliquait qu'il achetait de l'ail pour repousser les loups-garous et les vampires parce qu'eux, ils étaient du côté du mal. Puis après ça, le Dr. Choi, quand il a demandé pourquoi il fallait qu'il combatte ces créatures mythiques-là, il n'a pas été capable de répondre. Fait qu'il savait pas.
Il ne savait pas, mais il fallait de l'ail pour les combattre.
Fait que le chiffre de Mathieu sur l'ail s'est terminé à 11h, mais il est parti à 8h30. Fait que là, Andrea, sa superviseure, elle l'a texté, elle a dit « The fuck, t'es où? » Puis il a dit, je cite, « Crois-moi, je n'ai jamais fait de mal à personne. » Et ça, c'était suivi du chiffre 5.
Ouh!
Ce qui est un peu étrange parce que il a tué 5 personnes, ouais. Mais il n'avait pas prévu de tuer 5 personnes.
5 personnes,
oui. Fait qu'on ne sait pas pourquoi le chiffre 5. Puis j'ai regardé, tu sais, sur un clavier d'ordinateur. Tu sais, des fois, tu fais pas shift, genre.
Ouais.
C'est 5. C'est un signe de pourcentage.
OK.
C'est peut-être, tu sais, quand tu textes d'un ordi. Je sais pas. En tout cas, écoute. J'ai essayé, mais non. Fait que quand il a rencontré Brandon à la station-service, c'est là qu'il a donné une gousse d'ail puis une lame dentée. Puis il a dit plus tard que c'était parce qu'il pensait que Brandon était du côté du bien.
Ouais, c'est ça. S'il a donné de l'ail, c'est
parce que... Exactement. Ouais, fait qu'il voulait pas qu'il
son meure. Équipe.
Ben, finalement... fait que là... non, Brandon, il est pas mort.
C'est non, c'est ça. Brandon, ouais, Brandon c'est lui qui a couru après.
C'est ouais, ça? C'est ça. Ouais. Aussi, il a reconnu sa fixation pour le port de... Tu sais, il portait des gants bleus à ouais. la fin. Puis il s'est rappelé que dans son esprit, c'était parce qu'on y avait confié la tâche de démembrer les corps de la guerre.
Ouh!
C'est pour ça, les gants.
Hmm. Voilà.
Puis il se souvenait pas pourquoi il avait détruit son téléphone avec une hache puis jeté dans le feu. Il s'en rappelle pas.
Okay.
Il se rappelle pas avoir fait ça. Et il dit que dans la maison, il a entendu une voix masculine qui croyait être la voix du diable lui dire « Tu l'es avant qu'il t'attrape. » Et donc, quand il s'était retrouvé dans la cuisine avec son ami et qu'il discutait du bouddhisme
ouais.
et de la fin du monde, Mathieu a dit plus tard au Dr. Choi qu'il avait l'impression qu'il se disputait avec lui, son ami. Puis il a décidé que c'était parce qu'il devait être un loup-garou.
OK.
C'était pour ça qu'il se disputait. Puis ça l'a comme confirmé quand son ami il a dit « Peut-être que tu vas mourir avant moi. » Quand il parlait du bouddhisme, son ami il a dit ça à Mathieu. Fait que là, Mathieu, il a pris ça comme une menace directe. Et là, il a dit « On marchait vers le bloc de couteau, tu sais, des blocs de couteau dans la cuisine. » Puis il dit « Alors, j'ai décidé de tirer le premier parce que je ne savais pas ce qu'il allait faire, alors je l'ai poignardé. » Il dit qu'il a visé le cœur de son ami parce qu'il croyait que c'était la façon de tuer des loups-garous.
Oh my god.
Je sais pas si c'est comme... Je sais quand c'est comme...
C'est une balle d'argent, les loups-garous.
Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est pas comme ça qu'on tue un loup-garou. Ouais. Bref. Mathieu a expliqué au Dr. Choi qu'il a continué à tuer Josh, Katie, Lawrence et Jordan parce qu'il pensait qu'il faisait partie de la conspiration. Il a dit, et je cite... Ensuite, les gens sur le canapé ont vu et ont commencé à paniquer, alors je les ai tués. La fille a couru dans le coin, alors je suis allée la poignarder. J'ai dit, je suis désolée, je dois faire ça. Puis le gars de la cuisine n'était pas mort, j'ai dû le traquer, puis tout le monde est parti. Fait que là, il parlait de Josh, Katie, Lawrence et Jordan. C'est pour ça qu'il les a tués, mais il n'avait pas prévu les tuer.
Non, c'est ça.
Fait que là, il essayait de dire que quand ils avaient poignardé, c'était par miséricorde. Il disait, j'ai visé leur cœur, ils se sont débattus, ce qui a rendu les choses difficiles, mais vous savez, ça n'était pas sadique ou quoi que ce soit. C'est ça qu'il dit. Fait que là, le Dr. Joy a déterminé que Mathieu souffrait d'un épisode psychotique.
Ouais, clairement, là.
Il a dit, il est certain que la gravité émotionnelle des infractions était limitée lorsqu'il en discutait avec nous. Cependant, il n'a pas donné l'impression d'être insensible. Donc, il a déterminé que Mathieu se croyait menacé à l'époque, donc il a écrit, le Dr. Choi, une défense de non-responsabilité criminelle.
Ouais.
Une NRC. Donc, la NRC, ça s'applique aux gens qui ont commis une infraction, mais qui ne peuvent pas comprendre ce qu'ils ont fait, que ce qu'ils ont fait était mal à cause dû à un trouble mental.
Ouais.
C'est ça, pour ceux qui ne savent pas.
Puis c'est vraiment, tu sais, ceux qui essaient de le faker, c'est vraiment... difficile à prouver, tu sais, que c'était comme...
Non, c'est très difficile. Fait que là, c'est pour ça que le procès de Mathieu était un peu compliqué. Ça allait commencer en 2016, en mai 2016. Il y avait juste un juge, il n'y avait pas de jury. Il y a une... avant, il y avait une interdiction de publication dans les médias, mais elle a été levée parce que le public était impatient d'obtenir plus d'informations. Mathieu, il plaide non coupable aux 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il reconnaît son rôle dans les attaques, mais son avocat confirme que il continue à affirmer qu'il n'était pas responsable, criminellement responsable. Fait que dans le fond, quand tu détermines que quelqu'un est NRC, non criminellement responsable, NCR, l'affaire est traitée dans un établissement psychiatrique sécurisé au lieu d'en prison. Fait que c'est vraiment ça que tu veux pour ton client. Ensuite, c'est à la communication de révision de l'Alberta de déterminer si Mathieu représente toujours un risque pour la communauté et de le libérer s'il estime qu'il est correct. Donc, la Cour a entendu les témoignages de 3 professionnels de la santé mentale qui ont évalué Mathieu. 2 des médecins ont dit que Mathieu devait être déclaré non criminellement responsable. Mm-hmm. Puis, un autre médecin a dit que Mathieu souffrait de schizophrénie. Il a dit, et je cite, « Il avait l'intention de tuer ces individus parce qu'il pensait que sa vie était en danger et qu'il croyait que c'était la légitime défense. »
Ouais.
Ce qui est quand même vrai. Mathieu leur aurait dit que, aussi, s'il y avait eu plus de personnes dans la maison ou les moments où l'attaque a commencé, ils auraient tout tué. Fait que tu sais, il s'en fout de qui a tué.
Ouais.
Donc, en fait, les 3 témoins experts ont déclaré que Mathieu n'était pas criminellement responsable des décès. Donc là, de 24 mai 2016, donc 2 semaines plus tard, 10 jours plus tard, le procès s'est terminé entre un accord entre la couronne et la défense sur le fait que Mathieu était dans un état psychotique au moment des meurtres et qu'il était incapable de distinguer le bien du mal. Donc là, les familles des 5 victimes étaient quand même en crise.
Ouais, mais en même temps, je suis quand même d'accord.
Oui.
Tu sais, toute l'histoire, depuis le début, je suis le...
Non, psychose, il comprend rien.
Psychose, oh, ouais. Genre, il est pas lui-même. Puis tu sais, s'il avait été médicamenté au moment, tu sais, il aurait pas fait ça. T'sais.
Non, exactement.
C'était comme un débalancement chimique.
Ah non, lui, c'était la paranoïa carrément, puis c'était de l'autodéfense, la self-defense. Ouais. Donc là, le juge, il a pas eu le choix de déclarer Mathieu non criminellement responsable. Donc aujourd'hui, toute personne qui tombe sous le coup des règles de la non-responsabilité criminelle, il est plus traité comme un criminel, puis les conséquences de ses actes concernent son traitement et sa prise en charge. L'objectif étant de réhabiliter la personne pour qu'elle puisse réintégrer la communauté. C'est ça l'objectif. C'est ça qui frustrait les familles, en fait.
Ouais.
Donc, les délinquants comme Mathieu sont traités dans un établissement psychiatrique sécurisé. Puis leur statut est examiné chaque année, une fois à chaque année, par un groupe d'experts. Puis c'est eux qui déterminent si la santé mentale de Mathieu, elle a évolué au cours de la période. Puis s'il représente toujours un risque pour la communauté. Puis après ça, ils peuvent décider s'il peut avoir plus de liberté ou non. Et là, il y a eu plusieurs audiences. Là, chaque année, il y a une audience.
Ouais.
Et les familles ont vraiment été choquées parce qu'à chaque fois, ils apprenaient des nouvelles choses sur Mathieu. Ils apprenaient qu'il y avait beaucoup de privilèges. Genre, il y avait un accès supervisé à un ordinateur et à Internet, puis à son courriel électronique. Fait qu'il pouvait choisir avec qui voulait. Aussi, ce qui a choqué les familles, c'est qu'il y a un docteur à l'Institut qui a recommandé que Mathieu ait la liberté d'être autorisé à se promener dans l'enceinte de l'hôpital. D'abord escorté par 2 médecins, 2 membres du personnel. Après ça, par 1 si tout va bien. Puis après ça, il pouvait y aller tout seul si ça continuait à bien aller. Ouais. Exactement. Et là, en septembre 2019, Mathieu s'est vu accorder des sorties non supervisées par la commission d'examen de l'Alberta, bien qu'il disait qu'il restait un risque important pour la sécurité du public. Donc là, il pouvait, bref, aller tout seul dans des endroits non sécurisés, pas
en ville,
clôturés. Ouais. Fait que là, les familles étaient vraiment en tabernac. Fait que là, ils l'ont transféré à Edmonton. Parce qu'il s'est dit, c'est pas bon pour Mathieu, pour sa réintégration en société, puis c'est pas bon pour les familles non plus. Fait que c'est ça. Fait que là, en octobre, c'est ça. Il a été transféré avant ça. En octobre 2018, il a été transféré à Edmonton, puis il est là depuis ce temps-là.
OK. Il est encore à l'hôpital.
Oui, il est encore là-bas. Parce que ça s'est passé en 2014, ça fait 7 ans.
Oui, c'est ça, c'est quand même récent, là.
Exactement. Mais, tu sais, les familles sont encore extrêmement contre tout ça, puis ils comprennent pas qu'un danger de la société comme ça peut se promener tout seul en société, puis que, genre, si le gars, il décide d'arrêter de prendre ses médicaments, là...
C'est ça qui est touché, ouais. Personne c'est comme, qui peut le tant qu'il est médicamenté, c'est chill.
Mais oui.
Mais
qui vérifie qu'il prend ses médicaments? S'il réintègre dans la société, il n'y a plus personne qui le check.
Ouais.
En tout cas, c'est ça qui frustrait les familles.
Oui, je comprends. Hein.
Mais au moins, il est à Edmonton, il n'est plus à Brentwood ou à Calgary.
Ah.
Fait que voilà l'histoire
de Mathieu. C'est une bonne histoire.
Ouais.
Mais c'est triste en même temps, tu sais, c'est santé mentale.
Ah ouais, non, c'est vraiment
triste. Ça aurait pu être évité, tu sais, s'il avait été suivi.
Ouais, puis en plus, son père, il s'est demandé est-ce que je l'interne ou pas. Puis il ne l'a pas fait. Dois-tu le regretter?
Mais tu sais, à moins que la personne montre des signes genre de danger envers elle-même ou envers les autres, tu peux pas forcer quelqu'un à être interné.
Ouais.
Fait que, tu sais, s'il n'y avait pas ces signes-là, il aurait pu comme, lui proposer d'aller consulter ou d'aller à l'hôpital, mais tu sais, il n'aurait pas pu le forcer.
Mais il l'a fait une fois, fait que peut-être qu'il serait retourné. Il l'a envoyé en traitement de désintox une fois.
Ouais, mais désintox, en même temps,
ouais, c'est pas la même chose. Quand même. Genre, il y a un certain willingness à quelque part.
Bref. Ça fait penser à l'histoire de... Peut-être qu'on la fera à un moment donné, là. Le gars qui avait décapité quelqu'un dans un bus voyageur, là. Je pense que c'était en Alberta aussi. Tu connais pas cette histoire-là?
Non.
Ah, je t'ai raconté. C'est un autre cas de NCR. Ouais, ouais.
Ah.
Ouais. Le gars, NCR. Il était en grosse psychose, là. Il a genre décapité le gars dans le bus à côté de lui, là.
Ah, ça me dit quelque chose, par exemple. Ça fait pas longtemps,
ouais,
ça,
c'était
non?
Genre 2010, peut-être?
Ouais, ça me dit vraiment quelque 2000. Chose.
Ouais.
Oh, mais tu me raconteras.
Ouais.
Donc voilà l'épisode d'aujourd'hui.
Yes! C'était bon.
Oui. Notre petit Mathieu. The Grood.
The Grood.
Terreur à Brentwood.
Je vais nommer l'épisode de même, là. J'ai pas le choix.
Ben oui, c'est ça. Ouais. Pas le choix. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux nous raconter dans 2 semaines?
Oui. Oui, j'ai recherché le... Une auditrice m'avait recommandé un cas. En Estrie. Fait que j'ai fait mes recherches. Ça va être ça.
OK.
Ouais.
Ne m'en dis pas plus.
Non, je ne t'en dis pas plus.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Laissez-nous un petit commentaire, un petit bonjour.
Ben oui, continuez à nous écrire.
Qu'on aime ça. On est tellement des bons.
Tout le monde qui nous écrit sont tellement smart.
Oui, vraiment. Merci, vous êtes vraiment fin.
Oui, vraiment.
On vous aime.
Oui, on vous aime.
Puis on est rendu à. On est rendu à vraiment beaucoup de followers aussi.
Oui, on a beaucoup 21
000. De. 21 000.
Ouais, on a eu 21 000 downloads en tout dans le podcast. Puis beaucoup d'endroits par semaine. Fait que clairement, vous avez parlé de nous à vos amis, à votre famille. C'est cool. Continuez, ça fait une différence.
Ça fait chaud au cœur.
Oui, vraiment.
Fait que, on se voit dans 2 semaines.
Oui.
Bye.
Bye.